Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode d'Aux Premières Loges, donc le podcast axé sur les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Aujourd'hui, on est deux pour cet épisode. Vous commencez à le connaître très bien, je pense, parce qu'il est souvent présent les derniers jours. Il s'agit de Grégory Hamel. Comment ça va, Greg?
Bien, toi, man.
Ça va très bien, ça va très bien. C'est encore une fois du bon hockey. Ah, bon. Encore des matchs peut-être pas vraiment serrés dans l'Est. On espérait peut-être un peu plus de matchs serrés entre le Lightning et les Leafs, comme entre les Rangers et les Devils. Mais dans l'Ouest, on a du très bon hockey qui s'est fini jusqu'à la toute fin hier. Fait que c'est ça. On va commencer donc dans l'ordre, comme d'habitude, avec Leafs-Lightning, qui était le premier match hier. Contrairement au match numéro 1, ce fut totalement l'inverse. Les Leafs ont complètement dominé niveau offensif. Niveau défensif, la défense du Lightning s'est fait décimer. On sait que Victor Hedman ne participait pas au match. Chernak non plus, en raison de sa blessure, commotionné très probablement là, après le dernier match, l'incident avec Michael Bunting, qui a été suspendu 3 matchs. Et bref, pour les Leafs, là, c'est les gros canons. Marner, Tavares, Nylander ont marqué. Ian Cole pour le Lightning. Tavares un deuxième. Zach Aston-Reese, la profondeur. Marner a marqué un deuxième. Corey Perry s'est aussi inscrit au pointage pour le Lightning. Et Tavares qui... tour de chapeau hier de Tavares. Oui, c'est 3 premiers buts de la série. Matthews dépasse également. Donc, parle-moi de cette domination des Leafs qu'ils avaient grand besoin de faire cela après un match numéro 1 décevant.
Non, et surtout devant leurs partisans, là, c'était la partie là, très importante. Je pense que si tu perds les deux premiers, un peu comme dans le scénario des Devils là, contre les Rangers, je pense que tu es dans une très mauvaise situation. Donc, ils ont été en mesure d'égaliser la série. Là, quand même, Tampa Bay ont l'avantage de la patinoire pour le restant de la série. Ils ont fait leur travail, ils sont allés remporter une partie à Toronto. Mais quand même, là, les Maple Leafs ont bien fait hier. Pour égaliser la série, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre les deux premiers matchs devant leurs partisans. Donc, ça a commencé fort. 3 buts en première, un peu comme on l'a mentionné, là, c'est complètement le scénario opposé à la partie numéro 1. Puis c'est ça, je veux dire, le côté compétitif, il est définitivement là. Je veux dire, c'est une série robuste, une série où est-ce que les joueurs ne s'aiment pas visiblement. Là. On a vu même Maroon et O'Reilly, deux anciens coéquipiers avec les Blues qui ont gagné la Coupe cette année, qui cherchaient un peu là, en fin de troisième. Perry, Janot qui a failli se battre avec un partisan des Estrades, c'était rendu n'importe quoi rendu en troisième. C'est ça, je veux dire, l'histoire est là, le scénario, l'histoire entre les deux équipes est là. Par contre, côté résultat, c'est un peu décevant. Je veux dire, je pense que plusieurs personne n'aurait aimé avoir peut-être des parties un peu plus serrées. Là, je veux dire, les deux parties jusqu'à maintenant, ils étaient quasiment hors de portée après la première période, après les premiers 20 minutes. Donc là, je pense que la partie numéro 3 va être extrêmement importante. Je pense que l'équipe qui va être en mesure de remporter cette partie-là va se donner une très bonne option sur la série. Puis c'est ça, le Tampa Bay, ça va être devant leurs partisans. C'est eux qui vont un peu avoir la pression de pouvoir rebondir après une performance un peu plus décevante en partie numéro 2. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer avec les Hedman, les Chernak et tous les joueurs blessés.
Ouais, écoute, Chernak, je ne sais pas combien de temps, c'est parce que clairement une commotion, ça varie énormément, là, dépendamment des séquelles et du nombre de commotions que le joueur a déjà eu en carrière. Pour Hedman, écoute, c'est tellement une grosse perte pour le Lightning. Ils veulent certainement qu'il revienne le plus tôt possible, mais s'il n'a pas joué, ça veut vraiment dire qu'il est blessé. Mais ça ne me surprendrait pas de le voir jouer blessé. Là, c'est toujours ça dans les séries. Là. Fait que, bref, c'est ça. Puis là, je regarde la défensive du Lightning. Sergachev, Radish, ça, c'est ta première paire. Ensuite, Ian Cole, Perbix et Aiden Fleury, Zach Bogosian. Zach Bogosian hier, ça a été terrible là, défensivement, là, honnêtement. Puis tu regardes cette défensive-là du Lightning, c'est pire que la défensive du Canadien de Montréal, honnêtement. Là, fait que tu comprends comment ils se font décimer avec ça contre Toronto. Toronto, là, si la défense du Lightning est encore aussi amochée dans le prochain match, ils n'ont pas le choix là, de marquer beaucoup. Là. Ils ont une attaque dévastatrice. Tu n'as pas le choix de marquer beaucoup de buts contre une défense autant amochée.
Ouais, vas-y. C'est ça. Quand une défensive comme ça, je veux dire, Vasilevski ne peut pas faire des miracles non plus. Ça n'a pas été sa meilleure partie, partie numéro 2, évidemment. Il a alloué 7 buts. Mais tu regardes côté défensif du Lightning, comme tu as mentionné. La perte de Hedman et Pichernak a vraiment fait mal. Je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de profondeur à la base. On a vu après leur victoire de la Coupe Stanley, là, ils ont dû laisser partir des gars comme McDonough, d'autres gars, Ruta, je pense que c'était genre leur sixième meilleur défenseur il n'y a pas si longtemps. Puis là, finalement, on le prendrait bien dans une première paire quasiment en ce moment avec.
Ouais.
C'est sûr. Donc, Pichernak, je ne sais pas exactement combien de temps il va manquer, mais on a vu Hedman pratiquer avant la partie numéro 2, finalement.
C'est vrai.
D'après moi, je ne serais vraiment pas surpris de le voir jouer une partie numéro 3, même s'il n'est pas à 100%. Ben, il ne va pas être à 100%, j'en doute pas, mais d'après moi, on va le voir. Je ne serais vraiment pas surpris de le voir dans la partie numéro 3, puis ça ferait beaucoup de bien à la ligne bleue pour le Lightning.
Ouais, c'est certainement rien à enlever à Aiden Fleury ou Zach Bogosian, mais je prends un Victor Hedman à 70-80% bien avant eux, là, malheureusement pour eux. Mais ouais. Puis t'as parlé de Vasilevski qui connaît pas son qui a vraiment pas connu son meilleur match. C'est étonnant de voir ça, je trouve, parce que ben, tu sais, en même temps, c'est pas sa faute, là, c'est la défense qui était complètement. Nul, il faut le dire. Hier, là, qui s'est fait manger. Mais Vasilevski, il y a des buts, là, plusieurs buts, des tirs de loin que Marner a marqué deux buts comme ça, qui, oui, il y avait de la circulation devant le filet, mais je trouvais qu'il paraissait moins imposant qu'avant. Mais là, il y a juste deux matchs à jouer, il faut que je me calme aussi. Là. Bref. Oui, puis un autre bon point que tu as mentionné, c'est la robustesse et l'animosité là, entre les deux équipes. On t'a parlé de Janot. Le combat Luke Shen Jano, c'était intense. Fait que, ben, écoute, il y a clairement une rivalité entre ces deux clubs-là. Là.
Ah oui.
Voilà. Si t'as rien à rajouter, on va passer à.
c'était une bagarre des années 80. Là, c'était je veux dire, ça va être pour les personnes avec des cœurs sensibles, ça va être un peu plus difficile à regarder. Je veux dire, ceux qui veulent pas de bagarre puis tout ça, parce que j'ai vu les bagarres, la fin de match, c'était vraiment, je veux dire, ça faisait penser à une partie des Bruins contre le Canadien dans les années 80. Là. C'est vraiment du hockey robuste. Puis c'est surtout rendu en troisième période, quand tu perds par 5 ou par 4, par 6, whatever, t'as plus rien à perdre dans cette partie-là. T'sais, des fois, ça joue moins au hockey, puis ça veut plus aller pour le corps, puis finir les mises en échec, puis blesser l'adversaire.
Là. Ouais, c'est ça. C'est là du hockey de série. On voit souvent ça là, en fin de match, des équipes qui perdent, qui veulent aller essayer de mettre la table pour le prochain match.
Si on parle. Parlez-en à Mark Scheifele.
Ouais, oui, et à Jake Evans surtout. Ouais. Bref, prochaine rencontre, Rangers-Devils. Une autre rencontre à sens unique. Malgré que les Devils ont pris l'avantage, ont marqué en premier Eric Halla, qui a fait un 0 à New Jersey. Puis ensuite, les Rangers, écoute, qui ont peu de choses à se rapprocher là, en ce début de série. Là. Tout le monde, les gros canons participent parce qu'encore Tarasenko a marqué. Chris Kreider, deux autres buts en avantage numérique, ce gars-là est fou. Patrick Kane a marqué aussi, excellent match de Patrick Kane qui était partout. Et Capo Caco qui vient mettre le cinquième but également. Écoute, je sais pas si c'est le problème, si c'est vraiment les Devils qui sont juste inexpérimentés, mais il faut donner beaucoup de crédit aux Rangers qui sont excellents. Les gros canons marquent, on profite de l'avantage numérique. Puis, les additions fonctionnent aussi, le Kane, Tarasenko. Parle-moi des Rangers et des Devils aussi qui ont de la difficulté. Ouais.
Ben, je veux dire, comme tu as mentionné, les acquisitions jusqu'à maintenant là, font une grande différence dans la série. Aussi, Fox, je pense, qui est rendu à 5 ou 6 mentions d'aide. 6 mentions d'aide pour Fox. Donc, à la ligne bleue, c'est beaucoup de buts aussi sur l'avantage numérique. Je pense que Kreider rendu à 4, juste en avantage numérique.
Ouais. Tous ces buts sont en avantage numérique, je pense.
Ouais, puis je pense 3 sur des déviations, peut-être même 4. Je veux dire, c'est un gars qui, On cherchait un peu un joueur comme ça pour le Canadien cette saison, devant le filet, qui dévie des rondelles, qui est capable de cacher la vue du gardien. Puis, je veux dire, c'était une domination dans les deux dernières périodes. Pendant les premières 20 minutes, les premiers 20 minutes, les Devils ont très bien fait. Puis après ça, ça l'a changé. Le vent a tourné de bord. Je veux dire, en première période, je pense que c'était une très bonne partie. Puis après ça, Vanecek, la défensive, a juste cessé de faire le travail. Et puis quelque chose que j'ai mentionné qui m'a surpris un peu, c'est de voir Segan Thaler rayer de la formation. Je pense que c'était, juste cette saison, je pense que c'était un de leurs meilleurs défenseurs défensifs.
Ouais.
Il a été remplacé par Brendan Smith. C'est quelque chose que même les fans des Devils, les fans des Rangers étaient un peu surpris de voir. Donc ça, c'est quelque chose qui va être à surveiller pour le restant de la série. Là, ils viennent de se faire marquer 5 buts. C'était fait marquer 5 buts aussi dans la première partie. Ouais. Donc on va voir, là, il faut qu'il change quelque chose, ça c'est certain. Je sais pas si ça va être devant le filet. Je pense pas nécessairement que c'est juste Vanecek qui est le problème. Je pense que, tu sais, je veux dire, il t'a marqué 2 buts en 2 matchs, je pense.
Ouais, c'est 10-2 en ce moment à la série.
C'est
ça, là, en même temps, on a vu marquer. C'est
juste à la maison en plus. Là. C'est deux matchs perdus, 10-2 au total à la maison. Donc là, les Rangers qui vont jouer 3 des 5 prochains matchs, si ça sera à partie numéro 7, les 3 des 5 prochains matchs dans la série sont au Madison Square Garden. Mm-hmm. Donc, moi qui avais donné la série aux Devils en 7, ça regarde pas trop bien en ce moment. Mais ouais, il faut falloir que quelque chose change bientôt.
Oh, ben on salue la personne qui tente de te joindre. <Ouais. rire> mais ouais, je suis très d'accord avec toi. Puis écoute, je pense moi que c'est le fruit de l'inexpérience qui se passe en ce moment avec les Devils. Puis on a parlé des gros joueurs. Tu sais, Zibanejad, Panarin ont acquis de l'expérience en série, notamment l'an passé. Kane, Tarasenko sont des gagnants de la Coupe Stanley. Trouba, il y a de l'expérience du côté des Rangers avec le parcours qu'on a eu l'an passé, qu'on n'a pas du tout du côté des Devils. Ça paraît énormément. Puis je ne sais pas comment on va être capable de régler ça, surtout au Madison Square Garden. Deux autres choses aussi, c'est l'indiscipline. On a accordé 7 avantages numériques aux Rangers. C'est quelque chose que tu ne peux pas te permettre. Même s'il marque seulement 2 fois sur 7, c'est déjà 2 buts encaissés. Mais en plus, c'est énormément de temps que tu ne peux pas prendre pour aller attaquer parce que tu défends. Et l'autre chose aussi, c'est 23 tirs au but. Tu ne vas pas gagner contre les Rangers et un Shesterkin qui est en grande forme avec 23 tirs au but. Fait que, bon, les Devils, clairement, doivent s'améliorer de ce côté-là. Y a-tu quelque chose d'autre de ton côté que tu conseillerais, une clé pour aller chercher les deux prochains matchs?
Oui, rapidement, tu as mentionné juste qu'il faut rester en dehors du banc. Je pense dans les deux parties, les Rangers ont marqué 2 buts en avantage numérique. Ça aurait été assez pour les battre, les Devils à chaque fois, qui ont juste marqué 1 but à chaque partie. Ouais. Donc c'est ça, comme tu as mentionné, là, il faut rester en dehors du banc des pénalités le plus possible pour avoir une chance de rivaliser contre Shesterkin et compagnie là, pour les Devils.
Tout à fait. Puis, personnellement, pour le plaisir des spectateurs, on espère que les Devils vont réussir à rendre au moins les matchs un peu plus serrés. Même chose pour Lightning Leafs. Là. C'est le fun de gagner avec des grands écarts, mais on veut des matchs serrés. Bon, on se tourne vers l'Ouest maintenant. On a eu des matchs un peu plus serrés de ce côté-là. Commencer par Avalanche Kraken. Kraken de Seattle. Moi, j'étais comme l'Avalanche, là, ils vont sortir la machine. Prochaine rencontre. Ils ont gagné le match 3-2, mais ça n'a vraiment pas été facile parce que ça a commencé avec 2 buts en première période du Kraken. Justin Schultz, aidé de Tolvanen, qui avait marqué le premier but de l'histoire de la franchise en série éliminatoire au dernier match, Tolvanen. Brendan Tanev, en désavantage numérique sur une belle passe de Gourde, va marquer pour Seattle. Finalement, on est capable de revenir du côté de l'Avalanche. Arturi Lehkonen, qui d'autre, le joueur clutch des grands moments, autant pour l'Avalanche que pour le Canadien, marque. Nichushkin aussi, marque, gros match de Nichushkin. Et en fin de troisième période, Devon Toews qui va aller chercher ce gros but, le but gagnant pour l'Avalanche, avec une autre passe de Arturi Lehkonen. Bon, par où tu veux commencer? Par le Kraken qui est surprenant ou par l'Avalanche qui est capable de revenir?
Ben écoute, le Kraken, encore une fois, là, m'a surpris. Je pense que c'est une partie rappelée des deux côtés. Il avait marqué les 2 premiers buts. Après ça, je veux dire, ça a été un match extrêmement serré. Je veux dire, ils se sont fait allouer 3 buts consécutifs, mais ça ne représente pas nécessairement l'allure du match. Même les lancers au but, là, je pense qu'ils se sont fait... les tirs, c'était 41 à 29 à l'avantage de l'Avalanche, mais je veux dire, le Kraken a eu des excellentes chances de marquer qui n'ont pas été capables de capitaliser. En troisième période, je pense à l'arrêt là, de Georgiev sur Eberle en 3 contre 1.
Ouais.
C'était un arrêt qui a sauvé la partie, probablement. C'est plein d'arrêts comme ça. Des deux côtés, même, qui a rendu la partie extrêmement intéressante.
Même Bauer a fait des gros arrêts, oui.
Ouais, je veux dire, c'est deux gardiens que j'aurais pas nécessairement pensé qu'ils auraient réagi comme ça. Je pense que Georgiev n'avait pas une si bonne réputation que ça. Il était habitué à être le deuxième gardien avec les Rangers. Il n'avait pas une super bonne réputation. On a été surpris dans le monde du hockey. Plusieurs ont été surpris par le contrat qu'on lui a donné du côté de l'Avalanche. Mm-hmm. Et puis Grubauer, je veux dire, ça fait 2 saisons très difficiles qu'il connaît. Donc, c'est vraiment plaisant de voir que ces deux gardiens-là sont capables de... ils ont été capables jusqu'à maintenant de lever leur jeu d'un cran en série. C'est peut-être pas les vraiment, c'est, comme j'ai mentionné, c'est vraiment pas les deux gardiens qu'on aurait cru qui seraient levés comme ça. Par contre, ça rend les parties vraiment plus intéressantes. Puis aussi une très belle célébration de Brendan Tanev là, après son deuxième but en désavantage numérique.
Ouais.
Qui a donné un bisou aux partisans de Colorado.
Ouais, Tanev réputé autant pour ses photos de saison avec. C'est son regard assassin, il faut le dire. Là. Et ses célébrations, fait que ouais. Puis sur ce but-là, écoute, premièrement, il y a l'effort de Gourde qui va juste faire assez pour envoyer la rondelle à Tanev. Mais aussi que tu as mentionné les beaux arrêts de Georgiev. Mais là-dessus, ce deuxième but-là, c'était un but faible là, de Georgiev qui aurait dû arrêter. Fait que oui, il fait une bonne performance dans l'ensemble, mais quand même, c'est pas un Shesterkin, par exemple, qui va ne laisser aucun mauvais but dans son match. Puis, je dis pas que c'est lui le problème numéro 1 de l'Avalanche, mais ça ferait du bien d'avoir un gardien qui est capable de faire les arrêts. Ne pas laisser de mauvais buts, en fait. C'est ça qu'on veut, surtout d'un gardien. Mais quand même, tu l'as mentionné, fait des très bons arrêts hier, Georgiev. Même chose pour Grubauer. Puis, ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est que ce sont des éléments importants de l'Avalanche, mais ce n'est pas des McKinnon, ce n'est pas des Rantanen, ce n'est pas des Makar qui ont marqué les buts, c'est des éléments qui entourent le noyau comme Lekkonen, Nichushkin, Devontaze. Donc, c'est intéressant d'être capable d'aller chercher des victoires du côté de l'Avalanche sans que McKinnon et compagnie s'inscrivent à la marque. Et également, les défenseurs. On le sait, là, la perte de Kadri au centre, ça, c'est quelque chose qui fait jaser. On se dit JT Comfer, est-ce qu'il va être capable de prendre la relève offensivement? Ben, peut-être pas, mais si les défenseurs s'inscrivent au pointage, comme Taze le fait avec un but, une passe, Makar, une passe, c'est quelqu'un qui doit s'inscrire au pointage. Makar, si l'Avalanche veut connaître du succès, c'est une bonne piste de solution pour remplacer la production offensive de Kadri, notamment du côté de l'Avalanche. T'avais-tu autre chose à dire sur cette rencontre-là, Greg?
Ben, Landeskog aussi, je pense que c'est un élément important, ouais, qui manque.
C'est vrai.
Puis, je veux dire, Rantanen, je pense qu'il n'y a pas... J'écoutais un peu les commentaires d'après-match là, côté de l'Avalanche. Je pense que c'est pas un joueur, selon eux, qui a été capable de jouer à la hauteur des attentes, de ses attentes personnelles, puis des attentes des entraîneurs et des partisans. Donc, ça va être, j'ai hâte de voir comment il va réagir là, pour le restant de la série. Puis, on a mentionné rapidement le côté gardien Colorado. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est tellement solide défensivement, pas juste seulement leur top 6 à la défense, mais aussi leur beaucoup d'attaquants qui sont capables de jouer des deux côtés de la patinoire, qui rendent n'importe quel gardien, ils le font paraître beaucoup meilleur. Je pense à Grubauer là, qui a gagné le Vezina, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans, avant de partir pour Seattle. Depuis qu'il est à Seattle, là, il a connu 2 bons matchs pour débuter les séries. C'est 889 en 2022, puis 895 cette année, en saison régulière. Kemper, qui n'a pas connu une saison formidable là, depuis qu'il est parti pour Washington. Puis là, Georgiev, qui a connu une très bonne saison. Donc, j'ai l'impression vraiment que c'est une équipe un peu comme la Caroline, je dirais, qui est capable de, par leur système défensif, faire paraître n'importe quel gardien beaucoup meilleur qu'il l'est réellement, peut-être, sans vouloir lancer de flèche à Georgiev ou peu importe, là. Mais ouais, c'est une équipe qui est vraiment très solide défensivement, puis ça leur fait partiellement leur succès là, dans les dernières années.
Ben, exactement. Kemper, l'an passé, c'était un très bon exemple. Je pense pas que c'était un gardien flamboyant puis au même niveau que Chesterkin ou Vasilevski, mais il a remporté la Coupe Stanley parce que l'Avalanche est une formation extrêmement bonne défensivement. Est-ce que tu as dit que Grubauer avait gagné le Vezina?
Ben, il était dans les finalistes.
Il était dans la course. Oui, ouais, il était dans la course. OK, c'est ça, parce que j'ai eu un doute. Ouais, mais tu as raison. Je pense que c'était quand il était avec l'Avalanche, c'est ça?
Oui, ça. Dernière année avec l'Avalanche.
Je pense qu'il avait fini troisième ou peut-être quatrième. Oui, tu as raison. Passons. Cette série-là, vraiment, qui est à continuer à suivre, c'est une des séries les plus excitantes, tant qu'à moi, Avalanche Kraken. Maintenant, à l'autre rencontre de l'Ouest, c'était entre les Jets de Winnipeg et les Golden Knights de Las Vegas. Winnipeg qui avait surpris Vegas lors du premier match. Lors du deuxième match, pendant une bonne partie de la rencontre, ça a été assez serré comme rencontre. Attendez, j'ai les buts devant moi. Voilà. Ça a commencé avec les Jets qui sont inscrits au pointage en premier, Adam Laurie. Ensuite, William Carlson en deuxième période qui avait déjà marqué au match numéro 1. Jack Eichel aussi, une déviation. On parlait de déviation tantôt avec Ryder. Très belle déviation d'Eichel également contre les Jets. Je parlais au premier match d'Eichel qui devait être un joueur important dans cette série-là. Ben là, il s'inscrit au pointage. Stenlund ensuite pour les Jets. Et en troisième période, dominé complètement par Vegas. Chandler Stephenson et deux buts de Mark Stone. Ce qui est drôle, je ne sais pas si tu as vu le mime entourant Mark Stone et qui marquait le 20 avril, la célébration du cannabis. Donc, c'est assez drôle de voir ça, Mark Stone qui s'inscrit au pointage le fameux jour du 420. Bref, voilà, les Golden Knights qui ont ouvert la machine offensivement, ce qu'on attendait d'eux, ce qui n'avait pas été là, en fait, lors du premier match.
Oui, je veux dire, c'était une très bonne partie encore. Je pense que dans l'Ouest, c'est encore une très bonne série là, qu'on peut voir tard la nuit, tard le soir. Donc, les Jets se sont encore une fois présentés. Je pense que c'était 2-2 après la deuxième. Puis ensuite, les Golden Knights ont répliqué avec 3 buts en troisième. Je veux dire, c'était une partie excitante à regarder. Je pense que ça a été 4-2 juste quand il restait 7 minutes en troisième. Donc, c'était intéressant de voir aussi Brossois un peu être capable de se reprendre après une première partie un peu plus difficile. Voilà, je pense que les Golden Knights se devaient de remporter cette deuxième partie-là, comme on a mentionné. Tu ne peux pas perdre les deux premiers matchs à la maison. On sait, à Winnipeg, c'est bruyant, surtout en série. Donc, c'était une partie très importante pour les Golden Knights. Puis finalement, rapidement, j'avais mentionné que Grubauer était dans les finalistes. Il avait fini troisième en 2021. Ouais. Ouais, derrière Marc-André Fleury puis Vasilevski. Il avait quand même une moyenne là, de 1,95. Donc, c'était une très bonne saison pour Grubauer là, avant de quitter l'Avalanche.
Ouais, puis c'était l'année où l'Avalanche avait fini premier de la Ligue, si je ne m'abuse.
C'est une possibilité.
Il me semble que dans ces années-là, il avait gagné la saison régulière. Merci Greg pour ce segment département de recherche. toujours là pour ça. Puis, tu en as parlé, les Jets qui sont restés dans le match un bon moment, en fait, deux périodes complètes, parce que c'était 2-2 après deux. Et ensuite, là, les Vegas appuient sur l'accélérateur. Hellebuck n'a pas pu faire grand-chose. Il faut le dire, un des buts de Stone, ça a dévié sur un bâton et tout. Il y a peut-être eu un peu de chance côté de Vegas. Mais quand même, on avait mentionné qu'il devait être beaucoup plus punché offensivement. Ils l'ont été. Je ne sais pas si c'était là quand on avait fait le premier épisode avec Vegas, mais on parlait de peut-être mettre Quick dans les buts de la performance de Brossois. Ouais. Comment t'as trouvé la performance de Brossois dans le match numéro 2?
Comme j'ai mentionné, puis là, Quick, on a mentionné, là, il s'était rendu leur troisième gardien. Hier, c'était Aiden Hill
c'est vrai, t'as raison.
Qui était le substitut. Donc, je pense pas que. Je pense, j'imagine que Quick va pas jouer dans cette série-là ou dans les séries tout court. Non, je pense que Bourassa, hier, vraiment rien à se reprocher vraiment sur les deux buts. Le but de Lloris, c'était une déviation, si je m'abuse. Puis Stenlund, c'était aussi genre une déviation plus proche du filet dans la partie supérieure. Je pense que c'est ces deux buts qui peut pas vraiment se reprocher. Ouais, c'était le fun, je veux dire, de voir des joueurs des Jets, pas nécessairement dans leur top 6. On sait qu'ils ont un top 6 vraiment redoutable là, avec les Scheifele qui a marqué 40 buts, et etc. Mais hier, c'était Stenlund et Lowry, leur troisième centre, qui a marqué. Lowry, on l'a mentionné un peu. À Winnipeg, ils n'ont plus de capitaine. Puis je vois de plus en plus là, des partisans de Winnipeg qui pensent que Adam Lowry pourrait être un très fort candidat pour ça. Je pense que c'est un gars qui est très aimé de ce que j'ai entendu dans le vestiaire, puis qui est capable de se lever dans les moments qui comptent. Il y a déjà trois buts en deux parties en série. Donc ça va être quelque chose à regarder. J'ai aussi entendu parler de Morris comme un autre candidat. Mais Lloris, ça serait intéressant. Je pense pas que ça va être Dubois, en tout cas. Mais
non, je pense pas.
Donc, c'est ça, Lloris, je suis impressionné de son jeu rapidement là, depuis le début des séries.
Je suis très d'accord avec toi. Là-dessus, Lloris, ça fait longtemps qu'il est à Winnipeg en plus. Là, je ne saurais dire l'année, là, mais. Je pense qu'il a joué toute sa carrière, là, si je ne me trompe pas, même. Fait que, Greg, département de recherche, est là-dessus. Mais ouais. Puis pendant que tu regardes ça, là, un autre aspect hier, très intéressant du match d'hier, c'est les mises en échec. 73 mises en échec pour les Jets, 64 pour Vegas. C'est beaucoup de plaquages, mes amis. Donc, la dimension physique qui est vraiment qui fait vraiment partie prenante de cette série-là. T'as-tu trouvé finalement pour...
Oui, il a été repêché en 2011, troisième ronde par les Jets. Puis, il a commencé sa première saison, c'était en 2014-2015 avec les Jets. Donc, ça fait une bonne couple d'années. Ça fait 8 ans, quasiment 9 qu'il est avec les Jets.
Il roule sa bosse. Fait quoi? Moi, je serais quand même d'accord comme un candidat pertinent pour le poste de capitaine. Qu'est-ce que tu envisages pour le reste de la série qui se déplace du côté de Winnipeg?
Ouais, mais j'avais donné cette série-là aux Jets en raison de Hellebuck notamment. Eagles hier ont manqué la partie en raison d'une blessure. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer pour le restant de la série. C'est quand même un gros morceau à l'attaque, même si il joue pas énormément de ce que j'ai entendu. On ne lui fait pas nécessairement super confiance. C'est un dossier intriguant, c'est un peu, mais bon. Donc ça va être intéressant de voir. Je pense qu'il va falloir que le top 6 des Jets rebondisse là, pour le restant de la série. Hier, je veux dire, ben Morrissey est toujours très dangereux en zone offensive, mais je parle plutôt du top 6 à l'attaque qui va devoir vraiment produire là, la première partie. Connor Dubois était partout sur la patinoire. En partie numéro 2, Connor a eu des bons flashs, mais pour le reste, ça a été un peu plus silencieux côté offensif. Donc ça va être quelque chose de très important pour le restant de la série. Puis pour les Golden Knights, hier, ça n'a pas été un problème côté punch à l'attaque. C'est vraiment leur gros canon à l'attaque qui a fourni les 5 buts. Donc c'est ça va être. Honnêtement, je pense que ça va être une très bonne série à surveiller. Les deux équipes ont un peu leur point d'interrogation, je pense, au Golden Knights devant le filet.
Ouais.
Mais non, je pense que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour le restant de la série. Je pense que ça pourrait être une série qui se rend jusqu'à la partie numéro 7.
Ouais, ben nous deux, on a mis Jets en 7, c'est ça?
Oui.
Ben, je suis très d'accord avec toi là-dessus. Tout à fait, les gros canons des Jets qui doivent répondre, qui doivent rebondir au prochain match. Puis on doit continuer du côté de Vegas, les gros canons et aussi la profondeur de Vegas qui joue un rôle important, là, qui va devoir marquer. Puis dans les buts, c'est avantage et les bucks, c'est ça. C'est pour ça qu'on a mis les Jets, mais bref, ça va être très intéressant de voir le reste de la série. Donc cette série-là égale 1-1. La série Avalanche Kraken égale 1-1 aussi. 2-0 pour les Rangers contre les Devils. Bonne chance aux Devils qui s'en vont au Madison Square Garden les deux prochains matchs. Et Leafs Lightning, c'est 1-1. d'autres hockey ce soir. On espère, encore une fois, beaucoup de spectacles. Greg, je te remercie beaucoup pour ton temps.
Merci beaucoup, man.
Et puis, on se voit très bientôt pour un autre épisode d'Aux Premières Loges.